Le grand rendez-vous de l'immobilier par Radio Immo et Capital, une émission présentée par Christine Lejoux et Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour les amis, voilà, c'est le numéro 64 de notre grand rendez-vous de l'immobilier. Tous les mois sur Capital et sur Radio Immo, on décrypte pour vous l'actualité immobilière. Le logement, c'est vraiment la dent creuse en ce moment et c'est un vrai sujet pour tous les Français. Voilà, bienvenue dans votre grand rendez-vous, toujours accompagné de celle avec laquelle nous commettons cette émission tous les mois. Bonjour Christine Lejoux.
Bonjour Sylvain.
Comment
bonjour
ça va aujourd'hui?
Très bien, impeccable, merci beaucoup.
Alors on va parler du marché du neuf aujourd'hui, un vrai sujet.
Oui, un vrai sujet parce qu'on a une crise de l'immobilier d'une ampleur inédite depuis déjà 2 ans et demi et qui frappe notamment le marché immobilier résidentiel neuf. Depuis plusieurs années, on ne construit pas assez de logements en France. C'est ajouté la crise des taux de crédit qui ont flambé, quadruplé en 2 ans. Du coup, en 2025, est-ce que ce sera enfin la reprise du marché de l'immobilier neuf? Est-ce que les Françaises et les Français peuvent se reprendre à espérer de faire construire leur logement? Nous aurons des éléments de réponse tout à l'heure avec Grégory Monod, le président du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment, qui sera notre invité.
D'ailleurs, une personnalité qui ne mâche pas ses mots, ça promet dans le sommaire de l'émission également. Comme vous le savez les amis, tous les mois, on reçoit les experts qui viennent répondre à vos questions. Ils sont avocats, ils sont agents immobiliers, ils peuvent être également notaire, on parlera du marché locatif notamment. Vous êtes toujours avec nous dans cette 64e édition, c'est parti.
L'actu de l'immobilier.
Voilà, vous êtes dans notre 64e édition du grand rendez-vous de l'immobilier avec nos amis de Capital.fr et Radio Immo. Chaque mois, on décrypte l'actualité, on commence par un petit édito, on vous dresse un peu le portrait de l'actualité. C'est pas toujours simple de s'y retrouver. On va commencer avec la maison individuelle. Est-ce que c'est un rêve qui peut redevenir, on a l'impression, réalité pour les Français qui plébiscitent d'ailleurs la maison individuelle, Christine?
Alors, déjà, c'est un rêve, ça c'est une certitude, parce que depuis des années, quelles que soient les évolutions réglementaires, législatives, environnementales, quand on demande aux Français quel est leur idéal de logement, la plupart d'entre eux répondent la maison individuelle. Et de préférence, la maison individuelle neuve, parce qu'a priori, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de faire de travaux avant plusieurs années, parce qu'a priori, une maison neuve, c'est synonyme de consommation énergétique assez faible. Le problème, c'est que ce rêve de la maison individuelle de nos concitoyens, il a du plomb dans l'aile depuis quelques années, notamment pour des contraintes environnementales qui se défendent complètement. On a un défi avec la transition écologique et notamment la réduction de l'artificialisation des sols. Pour respecter cet objectif, en matière de construction de logements, ça implique plutôt de surélever des bâtiments existants que de construire des papillons de façon éparpillée un peu partout sur le territoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'an dernier, le gouvernement a rendu les maisons individuelles neuves inéligibles au prêt à taux zéro, ce fameux prêt sans intérêt aidé par l'État est bien utile pour les personnes qui achètent leur logement pour la première fois.
Bien sûr, les primo-accédants qui sont un peu les victimes, qui ont été les victimes de cette crise, on a l'impression que ça repart un peu. Mais Christine, cette exclusion du PTZ, elle a donné le coup de grâce à la vente de maisons individuelles. On voit, c'est un marché qui s'est littéralement effondré. Marché des constructeurs de maisons individuelles, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Grégory Monod. Avec la crise qui a été vraiment, il y a une vraie corrélation avec la flambée des taux et une politique du gouvernement qui, clairement, n'est pas favorable à la construction de maisons individuelles.
Absolument, et ça se voit vraiment dans les chiffres. L'année dernière, les ventes de maisons individuelles ont chuté de 13% en France par rapport à 2023, selon les chiffres du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment, pour tomber à 50 800 unités. 50 800, oui. C'est pas beaucoup.
Quand on sait qu'en 30 ans, on a... En 40 ans, la population française a cru de plus de 16 millions d'habitants, que les phénomènes de cohabitation ont fait exploser la demande de logement et que la majeure partie de notre territoire est construit avec du logement individuel, de la maison individuelle, du pavillon, du lotissement.
C'est ça. Et 50 800, c'est moitié moins que la moyenne annuelle des 20 dernières années. C'est un plus bas historique. Et ça alimente un cercle vicieux, c'est-à-dire quand les constructeurs de maisons individuelles et les promoteurs immobiliers vendent moins, logiquement, ils déposent moins de demandes de permis de construire. Du coup, aujourd'hui, on dénombre seulement 8 mises en chantier pour 1000 habitants. C'est le ratio qu'on avait dans les années 50. Sauf que, vous le rappeliez tout à l'heure, la demande de logement n'est plus du tout la même. Elle a explosé depuis les années 50, absolument, avec ces phénomènes de décohabitation, de familles recomposées. Et du coup, on s'achemine sans doute vers une pénurie de logements neufs dans les prochaines années. D'autant plus que, fauchés par cette crise, plus de 1000 constructeurs de maisons individuelles ont dû engager une procédure d'insolvabilité ou de sauvegarde ou de redressement judiciaire, voire même de liquidation judiciaire l'année dernière. Côté promoteur, c'est pas mieux. On a de grands noms de la promotion qui font face à de sérieuses difficultés financières. Et du coup, eh bien, ils licencient et on va se retrouver avec moins de bras pour construire les logements quand la demande de logements neufs repartira pour de bon.
Alors, vous avez absolument raison, puisque finalement, et les amis, vous qui nous écoutez, vous le savez, trouver un logement en location, c'est une galère absolue. Essayer de trouver un terrain qui coûte cher, faire construire, c'est aussi une autre galère. Surtout qu'on n'est pas sûr que le constructeur va aller au bout du chantier et qui se retrouve en carafe, puisqu'effectivement, c'est toute une industrie qui a été mise à genoux par une politique, parce qu'il faut être bien clair là-dessus, c'est la politique de ce gouvernement et des gouvernements précédents, depuis que Emmanuel Macron a pris le pouvoir en France,
depuis 2017,
qui a conduit finalement à cette situation dramatique. On va donner quand même une petite éclaircie, le dernier trimestre 2024, et c'est vrai qu'on l'a vu, très frémissant, avec un grand frémissement ou petit frémissement, bon, comme on voudra le dire, la vente de maisons maisons individuelles rebondir d'environ 17,3%, grâce notamment à l'amélioration des conditions de financement, mais aussi, on voit bien que le gouvernement, avec la nouvelle ministre du Logement, Valérie Létard, qui, je le répète, même si on n'est pas toujours favorable à l'exécutif, est certainement l'une des meilleures ministres du Logement que nous ayons eues depuis Jean-Louis Borloo, Besson, Périssol et Meynerie et d'autres. Est-ce que ça se confirme, cette reprise?
Alors ça, justement, c'est une question qu'on posera tout à l'heure à Grégory Monod, mais le fait est que les conditions de financement, et ça c'est très important, se sont considérablement améliorées. Les taux de crédit ont baissé d'environ un point en l'espace d'un an. Ils étaient à plus de 4% à l'automne 2023.
Ça suffit pour repartir en achat, quoi.
Oui, aujourd'hui, un crédit sur 20 ans, on est à 3,20%. Oui, c'est des taux qu'on a connus en 2017. C'est gérable. On parlait tout à l'heure du prêt à taux zéro. Eh bien, on a une bonne nouvelle parce que, à l'initiative de Valérie Létard, la ministre du Logement, depuis le 1er avril dernier, les maisons neuves sont de nouveau éligibles au prêt à taux zéro.
Au PTZ, absolument. On revient.
Bah, la version d'avant 2004.
Mais
du
oui,
PTZ.
On revient.
2024, pardon.
Absolument, on revient à une version antérieure.
Oui.
Du coup, mécanisme gagnant. Baisse d'un. Alors, c'est à peu près 50-100 points de base
de baisse des taux de crédit.
Donc, tout de suite, ça le resolvabilise.
Exactement.
En fait, ça fait passer au cordeau les dossiers.
Oui.
Et le PTZ.
Qui fonctionne comme un apport pour les primo-accédants.
Non, mais c'est l'apport.
Exactement.
En plus, il y a des conditions. Je crois que c'est sous conditions de ressources.
Ah, c'est sous conditions de ressources, tout à fait.
Et qui permet donc d'avoir quand même jusqu'à. Alors, en plus, il y a des constructeurs qui bonifient.
Oui.
Qui essayent d'attirer les clients.
Des banques aussi,
ce qui est logique.
Le prêt à taux zéro.
Voilà, il faut savoir que c'est frugal en termes de consommation énergétique, que les travaux sont de meilleure qualité, que les matériaux sont de meilleure qualité. Donc c'est gagnant pour tout le monde finalement.
Absolument. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que parallèlement, depuis le 1er avril également, le prêt à taux zéro est étendu à tout le territoire français. Il n'est plus circonscrit, comme l'an dernier, aux zones dites tendues, où l'offre de logement est très inférieure à la demande. Et autre bonne nouvelle pour la maison individuelle, on parlait tout à l'heure de la lutte contre l'artificialisation des sols. Il y a une proposition de loi portée par des sénateurs, la proposition de loi TRACE, pour trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux. C'est pas très glamour, je vous l'accorde.
Bienvenue en France.
Voilà. Mais cette proposition de loi sénatoriale, elle assouplit considérablement l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour les constructeurs de maisons individuelles. Bon, ce n'est pas fait pour autant. Ce texte doit encore être examiné par l'Assemblée nationale, où on a au moins deux députés qui ne sont pas trop d'accord avec cet objectif. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est à un an seulement des prochaines élections municipales. Et il y a un proverbe qui dit que un maire bâtisseur, c'est un maire battu. Donc, attention aux élus locaux qui pourraient, dans un souci de réélection, dire non, non, pas de nouveaux logements dans ma commune.
Décidément, en France, on a vraiment un sujet. Parce qu'effectivement, à un an des élections municipales, vous doutez bien que les maires essayent d'éviter de mettre trop de chantiers, trop de grues dans les rues, parce que forcément, ce n'est pas bon pour les élections. Et qu'après, donc, si on prend les deux dernières années, ce n'est pas une double peine pour les promoteurs comme pour les constructeurs de maisons individuelles, mais c'est une triple peine. Parce que va s'engager aussi après le renouvellement de l'exécutif, juste un an après, avec les élections présidentielles, dont on a l'impression qu'effectivement, elles tardent un peu à venir, mais je vous rassure, on a que 2 ans à tenir pour justement essayer de retrouver un peu de flux. Merci beaucoup, Christine, pour toutes ces précisions.
Avec
on va parler
plaisir.
Maintenant, je vous propose qu'on parle maintenant du marché du neuf, de la construction, puisqu'il y a aussi un autre corollaire, c'est que moins de permis, donc moins de chantiers, moins de travail. Ailleurs. Donc ça veut dire licenciement dans la chaîne du bâtiment également, qui elle-même doit retrouver des relais de croissance, bien évidemment. Il y a un autre aussi facteur qui est important, mesdames et messieurs, c'est la perte des compétences, malheureusement. Je peux vous dire que l'effondrement du marché de la construction de logements neufs a fait partir des compétences qui ne reviendront pas. Et le jour où on sera prêt pour reconstruire, pour construire, je peux vous dire que ça va être une galère pour recruter. Bref, ça ne va pas toujours être simple.
Oui, c'est voilà. Des savoir-faire qui ne s'acquièrent pas en 2-3 mois.
Hein, absolument. À suivre le grand entretien avec notre invité. On va recevoir Grégory Monneau, qui est président du Pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment. C'est tout de suite après ça.
La grande interview.
Eh bien, voilà, vous êtes de retour dans le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est notre 64e édition. On est heureux, très heureux de vous retrouver avec, on vous l'a dit, un programme chargé, toujours accompagné de ma complice. Bonjour, rebonjour Christine Lejoux. Alors là, on reçoit quelqu'un qui est aujourd'hui dans le métier, une grande personnalité de l'immobilier et de la construction. Bonjour Grégory Monneau.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Vous êtes notre grand invité en ce mois d'avril. Vous présidez le Pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment. Le bâtiment, c'est plus de 350 000 entreprises en France. Et bien sûr, nous avons une tradition, mon cher Grégory, sur le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est que la première question vous est toujours posée par Christine Lejoux.
Avec plaisir. Bonjour Grégory Monneau.
Bonjour Christine.
En février, lorsque vous avez présenté le bilan de l'année 2024, vous avez fait état d'une chute des ventes de maisons individuelles de 13,3% en 2024 par rapport à 2023 à 50 800 unités. On a appuyé sur le chiffre en préambule de l'émission parce que c'est moitié moins que la moyenne annuelle des 20 dernières années. C'est quasiment un plus bas historique. Et là, après 2 ans et demi de crise de l'immobilier, le premier trimestre 2025, comment il s'est passé dans votre secteur, côté construction de maisons individuelles et puis promotion également?
Eh bien, depuis de nombreux mois, on annonçait des trimestres en baisse. Et là, c'est vrai que c'est la première fois depuis 3 ans qu'on a une augmentation de nos ventes sur le premier trimestre. Mais comme vous l'avez dit, on part de tellement
oui,
bas.
Mais de combien l'augmentation, déjà, s'il vous plaît?
On a 21% à peu près d'augmentation, mais on a perdu 58%. Depuis 2024.
Comme un rebond technique, ouais, une base favorable,
exactement.
Une base de comparaison favorable.
Aujourd'hui, on sent qu'on a à nouveau des contacts depuis le mois de septembre, qu'on a toujours cette envie de devenir propriétaire. On a des acquéreurs qui reviennent nous voir.
Pardonnez-moi,
et là,
vous
ça s'est traduit
avez,
par les chiffres.
Vous avez plus de contacts, on appelle ça des leads, ou des personnes qui veulent acheter plus. Ça repart.
Ils reviennent. C'est-à-dire que c'est
pourquoi
des personnes...
Plus,
non, parce qu'il n'y avait plus de confiance.
D'accord.
En fait, le sujet, c'est que, l'acte
désir,
d'acquisition immobilier, c'est un acte de confiance.
Le désir était toujours là, pourtant.
Le désir d'être propriétaire. Et puis après, il y a aussi un besoin. Se mettre un toit sur la tête, c'est quand même un besoin vital.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, on a plus de 2 700 000 demandeurs de logements sociaux. C'est qu'on a un vrai problème quand même avec le logement des Français. Donc oui, il y a eu un rebond, mais il faut relativiser. Il faut attendre quand même un petit peu, voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Vous savez, quand vous êtes touché le fond, fond de la piscine. Il y a
oui,
un
vous
moment,
pouvez
forcément,
remonter, vous tapez vous pouvez que avec remonter. Le pied et vous
mais
bondissez.
Là encore, tout ça est encore fragile. Il ne faudrait pas qu'on soit déstabilisé par plein d'événements. Donc, je pense qu'on va aborder maintenant
Bien
ces
sûr.
Différents sujets.
Alors, justement, on va entrer dans le vif du sujet, puisqu'il y a beaucoup de particuliers qui nous écoutent. Et d'ailleurs, le grand rendez-vous de l'immobilier sur capital.fr, il est fait pour ça. On a vu revenir, bon, c'est presque ignoré du sort, le prêt à taux zéro. Bien. Prêt à taux zéro qui était déjà d'ailleurs installé avant effectivement la restriction sur le PLF de 2024, le projet de loi de finances 2024. Il y a deux choses qui se sont produites qui sont relativement positives. On peut parler quand même d'une petite éclaircie. C'est la baisse des taux d'intérêt, donc une baisse du point de base qui a été significative et qui a automatiquement, sur certains dossiers de crédit resolvabilisés, accompagné de l'élargissement au PTZ qui a été acquis avec force conviction par Valérie Létard. D'ailleurs, on souligne, nous, systématiquement, nous les journalistes, son action, puisqu'elle a été déterminante. Et on a vu ensuite les statistiques sur le logement ancien comme sur la maison individuelle. C'était automatique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce corollaire, vous le trouvez favorable certainement, est-ce qu'il va, selon vous, continuer ? Est-ce qu'on est sur une bonne trajectoire ?
Oui, nous sommes sur une bonne trajectoire. Vous le rappelez à très juste titre, hein, Valérie Létard a écouté et entendu ce que la profession réclamait depuis de très nombreuses années, à savoir le soutien en fait, de la demande et le financement de la demande, l'accompagnement de la demande, le retour du prêt à taux zéro depuis le 1er avril
pour les maisons individuelles,
de façon universelle sur tous les territoires, pour la maison individuelle comme pour le logement collectif.
Parce que ce n'était pas gagné dans le précédent gouvernement.
Ah non, ce n'était pas gagné. Alors, sous le gouvernement Barnier, elle était déjà présente.
Oui, oui.
Donc, c'était sur les précédents gouvernements où là, il y avait, je dirais, je pense qu'il y avait une volonté de ne pas vouloir entendre. Hein, parce que clairement, quand tout le monde, tous les membres de l'Alliance, l'Alliance s'est créée aussi à ce moment-là.
L'Alliance pour le logement qui regroupe plusieurs fédérations professionnelles, dont le Pôle Habitat FFB. Oui.
Exactement. Tout le monde le réclamait d'une seule voix. Et y a donc à un moment, c'est pas qu'on est partisans, c'est qu'on voit bien ce qui se passait dans les chiffres. Et donc, le retour du prêt à taux zéro, je dirais, est le début d'une nouvelle ère, je pense, pour les mois à venir. Vous l'avez dit, les taux directeurs ont baissé aussi. Hein, on a perdu à peu près un point de base après avoir pris 3,5 points. On a eu une augmentation de 350 points du taux directeur. Donc aujourd'hui, on revient dans quelque chose d'un petit peu plus normé. Le prêt à taux zéro aujourd'hui, c'est quelque chose là aussi où les organismes bancaires connaissent ce dispositif. Ils sont prêts, donc à appuyer sur le bouton. Aujourd'hui, on voit qu'il y a même certains organismes qui doublent
qui
le prêt à taux zéro.
Qui doublent le montant du PTZ, oui.
Donc
oui,
là
oui.
aussi, hein, c'est un vrai moyen de resolvabiliser, puisque ça peut être considéré comme un apport. Donc la trajectoire est bonne. Et surtout, c'est que le prêt à taux zéro a été sacralisé jusqu'à la fin 2027.
Oui.
Donc là aussi, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité, même beaucoup plus de visibilité que de se dire, comme tous les ans, à chaque loi de finances, bah, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va nous supprimer.
Oui. Et voilà. Est-ce qu'au 31 décembre 2025, il y aura encore un PTZ ou non ? Là, on sait que jusqu'à fin 2027, il est là.
Exactement. Donc de la confiance et de la visibilité.
Oui, alors vous avez, alors, non seulement vous avez mille fois raison, mais on a carrément allé à la recherche d'indicateurs, et notamment, on a questionné les Français. Alors, qui sont 87% à plébisciter la maison individuelle. Donc ça, c'est pour clouer le bec à certaines personnes qui pensent qu'il ne faut plus étaler. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est de voir que le corollaire de la maison individuelle qui repart, c'est le logement neuf dont les réservations ont cru de façon significative sur le premier trimestre 2025. Je prends par exemple les statistiques du groupe Nexity. Donc ça a été un véritable carton, mais ils ont été très loin, puisque avec des banques comme le LCL, alors que c'est un peu le bon taux, hein, c'est voilà, sur une acquisition de 250 000 euros, on peut arriver jusqu'à quasiment 90 000 euros d'apport, ce qui est quand même très significatif. Est-ce que ça veut dire que ça donne une idée quand même de la fébrilité de certains promoteurs à essayer de doper les ventes pour s'en sortir? Parce que quand on voit les statistiques, on en parlait tout à l'heure, des entreprises qui ont mis un genou à terre, enfin, c'est quand même assez significatif. Moi, j'ai envie de vous poser une question professionnelle, c'est que quand le marché va repartir, est-ce qu'on sera armé, comme dirait notre cher président, pour pouvoir accompagner le marché?
Alors, je pense que vous faites bien de faire la distinction entre la maison individuelle et la promotion immobilière. La maison individuelle, on a un tissu d'acteurs qui est plutôt des acteurs assez diffus, hein, de plutôt de petite taille. Et la maison individuelle, c'est un objet. C'est-à-dire que quand on redémarre, on relance la construction, on construit une maison. Le collectif, c'est différent. Le collectif, c'est, il nous faut un minimum de réservation pour pouvoir lancer les opérations. Et donc, bah, de ce fait, il faut vendre 50% de l'opération pour pouvoir redémarrer. Donc, c'est pour ça que les promoteurs ont intérêt à relancer ces opérations et à faire des opérations de promotion pour pouvoir atteindre ce graal que sont les 50% de pré-commercialisation que nous demandent nos organismes de financement. Je pense que là aussi, hein, le monde de la promotion a été beaucoup plus sage que certaines crises, parce qu'en fait, on n'a pas de stock bâti important. Ça aussi, c'est important de le dire. Ah, la crise des années 90, proportionnellement aux années 90, dans les années 90, on démarrait à 20%, on livrait des immeubles, on se retrouvait avec 80% de logements achevés, non vendus. Et là, ça avait été un vrai sujet.
Il y a quand même un peu de stock.
Mais il y a quand même eu beaucoup d'opérations qui ont abandonné des opérations. Oui. On estime à peu près à 30% le nombre d'opérations abandonnées où les promoteurs avaient obtenu un permis de construire, des autorisations. Et
ils n'y sont pas allés finalement.
Ils n'y vont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment commercialisé.
Est-ce qu'ils ont revendu éventuellement ces opérations ? Est-ce que des grosses majors, par exemple, des gros promoteurs, se sont dit, finalement, on va absorber ? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être les bailleurs sociaux également qui ont préempté ces opérations ?
On a eu une aide importante, en tout cas un marché, quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est le logement intermédiaire.
Bien sûr.
Aujourd'hui, au travers des filiales d'Action Logement et de la Caisse des dépôts, mais surtout les filiales d'Action Logement, ça a permis à bon nombre d'opérateurs de soit dérisquer des opérations, aller chercher ces 50%, soit à l'inverse, de transformer des opérations qui étaient dédiées à la vente aux particuliers vers de la vente en bloc aux filiales d'Action Logement. Donc ça, ça a été un point.
Et de CDC Habitat.
Et de la Caisse des dépôts dans une moindre mesure, puisque le gros a été fait quand même par les filiales d'Action Logement.
34 500 unités ont été achetées, préemptées par Action Logement.
Donc, tout ça, en fait, pour dire que les bailleurs ont pu récupérer, au travers de ces opérations en LLI, des opérations en propre, c'est-à-dire qu'ils ont pu racheter parfois certaines opérations. Ça a été un petit peu les opportunités qui ont fait qu'ils ont pu les acheter. Mais je dirais que ça ne s'est pas industrialisé. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'abandon. Une opération qui a été initiée avec les codes que l'on connaissait en 2021-2022, parce que avant qu'une opération soit mise sur le marché, ça fait 3 ans qu'on la travaille en promotion immobilière. Donc les codes n'étaient pas du tout les mêmes. Donc il y a un moment, avec les codes d'aujourd'hui, ces opérations n'étaient pas viables et les promoteurs préfèrent les abandonner plutôt que de générer du stock qui serait dramatique pour leur bilan.
Une dernière question, Christine Lejoux.
Oui, j'avais une question sur... On a vu tout à l'heure l'élargissement du prêt à taux zéro. C'est une mesure très importante pour relancer le logement neuf. Quelles autres mesures faudrait-il mettre en place, selon vous ? Et il y a également, l'initiative encore de Valérie Létard, la ministre du Logement, l'exonération d'impôts des donations familiales pour financer l'achat d'un logement neuf. On va dire, grosso modo, c'est les deux principales mesures en vigueur, qui peuvent aider le secteur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour le relancer vraiment, selon vous ?
Depuis le 1er janvier, en fait, on n'a plus de dispositif d'accompagnement de l'investisseur privé.
Oui, depuis la fin du Pinel, en fait.
Depuis la
fin
du Pinel, voilà. Exactement. Oui, oui. Hein, la loi de finances.
Le Pinel était une niche fiscale d'accompagnement qui permettait, sur des investisseurs, de mettre sur le marché locatif du bâtiment neuf, des unités neuves à prix réglementé, à taux fixe.
Exactement, c'est-à-dire qu'on était quand même sur des loyers réglementés. C'était un crédit d'impôt, parce qu'on a une grosse fiscalité en face, donc on fait du crédit d'impôt quand il y a une grosse fiscalité. Donc ça, c'est toujours un petit peu le paradigme que je dirais que l'État doit gérer.
État qui a considéré que c'était un pognon de dingue, qui ne produisait, je reprends les mots du président, qui ne produisait aucune efficacité opérationnelle.
La Cour des comptes a été moins sévère.
La Cour des comptes était beaucoup moins sévère, et puis Bercy s'est rendu compte que le point de PIB qu'on a perdu à cause de la construction neuve était lié aussi au fait aux 50 000 logements. Le Pinel, c'était quand même 50 000 logements par an qui généraient de la TVA. Et donc, c'est sûr, si on regardait que les dépenses, on ne réfléchissait pas à investissement. Donc, nous, on pense qu'il faut relancer justement le sujet de l'investisseur privé au travers du statut du bailleur. Mais il y a quelque chose qui serait tout simple à faire. On parlait du logement intermédiaire tout à l'heure avec les filiales d'Action Logement. Demain, si le logement intermédiaire était ouvert aux particuliers, c'est un dispositif qu'on connaît. Les banques savent le financer. Il fonctionne très bien. Je pense que ça permettrait de relancer l'investissement locatif privé.
Il est un peu ouvert aux particuliers, mais qui doivent créer une SCI, une société civile immobilière.
Mais je dirais, là, il faudrait qu'on le fasse en direct, sans forcément créer de SCI.
Mais c'est le statut du bailleur privé dont vous parlez en réalité.
Alors, le statut du bailleur privé, il y a un amortissement et il n'y a pas un jeu de TVA. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Mais on arrive au terme de cette première entretien, puisqu'on a nos experts qui vont répondre à vos questions que vous posez tous les mois sur la page de Capital Facebook, les proprios gérés par notre amie Christine. On se retrouve dans quelques instants et la deuxième partie de l'entretien, vous restez avec nous, Grégory Monod. Je rappelle que vous êtes le président du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment. À tout de suite.
Vos questions, nos réponses.
Comme chaque mois, vous le savez les amis, sur le club Facebook Les Proprios gérés par nos amis de Capital.fr, vous posez vos questions, on vous répond. Ce sont des questions pratiques auxquelles vous êtes soumis quotidiennement, que ce soit fiscal, social, que ce soit sur vos acquisitions. Bien évidemment, ils sont avocats, experts comptables, notaires, et ils viennent chaque mois sur le plateau. Là, ça tombe bien, nous avons une avocate qui est avec nous sur le plateau, c'est Maître Manon Belin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialisée en fiscalité. Moi, je suis obligé de prendre un Valium à chaque fois que je traite de ma fiscalité. Bref, l'avantage avec vous, c'est que vous allez réenchanter la fiscalité. D'ailleurs, nous avons une tradition, vous savez, dans le grand rendez-vous de l'immobilier, c'est que les questions sont posées par l'ami Vincent. Comment il va, l'ami Vincent ?
Ça va très bien, merci.
Voilà, les jolis cheveux, là. C'est très, très
sympa. Oui, on essaye des trucs.
Toujours, vous avez grandi depuis la dernière fois.
Un petit peu aussi.
Vous étiez 1m98, là, vous devez faire bien 2 mètres, là, facilement.
On a changé de tabouret aussi. Il faut voir ce que c'est.
Bien vu. Voilà, on a une question qui nous est posée par Jean-Jacques.
Jean-Jacques, d'Aix-en-Provence, pour vous, Manon Belin, une question. Il est locataire, il a entendu dire qu'une partie de la taxe foncière pourrait être bientôt payée par les locataires. Qu'en est-il ?
Vrai, c'est vrai, ça ?
Alors, je ne vais pas participer à l'enchantement pour l'instant. Ce n'est pas prévu du tout. C'est une mesure qui est proposée par l'UNPI, qui se bat depuis quelques mois pour la mettre en avant. L'idée serait de créer une taxe usagée, de prévoir une répartition juste entre le propriétaire et le locataire, puisque depuis la suppression de la taxe d'habitation, le locataire ne paye plus de taxes. La difficulté, c'est que il faudrait modifier le décret de 1987 qui prévoit la liste des charges qui peuvent être récupérées par le propriétaire. Et la taxe foncière, en tant que telle, n'en fait pas partie aujourd'hui.
C'est ça, c'est l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui, lors de sa dernière conférence de presse sur la taxe foncière il y a quelques mois, compte tenu de l'envolée de la taxe foncière depuis maintenant quelques années, a suggéré qu'éventuellement la charge de la taxe foncière puisse ne plus reposer seulement sur le propriétaire, mais également en partie sur le locataire.
C'est vrai que ça a fait hurler, vous le savez, ça a fait hurler les associations de consommateurs et notamment les associations de locataires,
évidemment,
qui ont trouvé la mesure injuste. Enfin, ce qui était injuste, c'est finalement doter la taxe d'habitation au maire et de continuer finalement à percevoir la taxe foncière sur les propriétaires. Mais il y a un symbole au-delà de tout ça. C'est le fait de toujours taper sur les propriétaires dont on a l'impression qu'ils sont la variable d'ajustement des politiques fiscales du gouvernement parce qu'ils ne peuvent pas délocaliser leur bien immobilier. Et c'est vrai que l'avantage d'avoir des propriétaires, mais je suppose que vous devez en avoir beaucoup sur le plan fiscal qui vous pose des questions, c'est que comme ils ne peuvent pas bouger, à chaque fois, ils sont ciblés.
C'est ça, la seule solution.
Ça ne passera pas, cette loi, Manon.
En fait, c'est même pas c'est un vœu de l'UNPI pour le moment. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de proposition de loi.
On va dire que c'est une mesure dont a entendu parler notre ami Jean-Jacques à Aix-en-Provence. Moi, je suis d'accord avec vous.
Il suit bien l'actualité, en tout cas.
Si vous créez un club, moi j'y adhère volontiers. Mais effectivement, il y a une inéquité finalement, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de petits propriétaires qui ont besoin de son revenu pour leur retraite, et que c'est vrai que quand on fait comme à Paris, c'est 52% d'augmentation.
C'est vous pas disiez tout à l'heure, c'est même 60%.
Oui, on est passé de 13,5% à 20%.
Énorme.
C'est ça. Et sur 10 ans, la taxe foncière en France, en moyenne, a augmenté de 32,9%. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui intéresse toute l'année, tout le temps, tout le monde.
Ben oui.
Puisque chaque année, ça s'empire.
Et, oui,
et donc on a la part qui est basée sur l'indice des prix à la consommation, harmonisé. Donc,
oui.
C'est aussi un autre débat, puisque c'est au niveau européen que c'est calculé et pas au niveau français. Donc ça crée quand même une petite injustice, plus la liberté des taux. Et cette liberté est bien prise par les maires aujourd'hui.
D'accord.
Pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Oui, même s'il y a eu des dotations de l'État, ça n'a pas suffi.
Bien sûr. Voilà la réponse qui vous est donnée. Merci de suivre d'ailleurs effectivement l'activité. Ah, une jolie région qui s'appelle Montfort-l'Amaury, c'est ça ?
Mmh.
C'est Sandra qui nous écrit de Montfort-l'Amaury.
Ouais, tout
très
à
joli,
fait.
Montfort-l'Amaury. Vous connaissez un peu ?
Yveline ?
Oui, dans Yveline, c'est très chic.
Très chic, absolument.
Ouais, très chic. Vous pouvez être un... voilà. C'est pas au Berbélier. Hein.
C'est
très chic. Ouais.
On aime beaucoup Aubervilliers au demeurant. Bonjour aux habitants d'Aubervilliers.
Aubervilliers. À Montfort-l'Amaury, Sandra, effectivement, nous écrit. Elle se pose une question. Si mon locataire ne paie plus le loyer, est-ce qu'elle peut prétendre à un dégrèvement de taxes foncières ? Est-ce que c'est possible ?
Quelle question.
Donc on va déchanter à nouveau. Non, ce n'est pas un cas d'exonération. Un des cas d'exonération, c'est en cas de vacances ou d'inexploitation du logement pendant plus de 3 mois, si cette vacance ou cette inexploitation n'est pas due au fait du propriétaire.
Si elle est subie par le propriétaire.
Exemple, ça se loue pas pendant 3 mois.
Il faut prouver à l'administration fiscale qu'on a entrepris toutes les démarches pour pouvoir le louer.
Exemple très pratique. Un bien qui n'a pas été loué et qui est chez un administrateur de biens. Donc on sait qu'il a l'annonce, on a la date du passage de l'annonce. C'est resté plus de 3 mois, personne n'a contracté le bail. Est-ce que je peux me prévaloir de ça pour demander l'exo ?
On peut le demander à l'administration fiscale.
D'accord.
Toutes les preuves.
Est-ce que je l'obtiens ? Est-ce que ces preuves-là suffisent ? Une attestation, par exemple, de l'administrateur de biens, qui gérerait le bien.
Oui, montrer que vraiment toutes les démarches ont été mises en place pour, pour
et
le
ça
louer.
Est-ce que ça marche
Dès lors qu'on rentre dans un cadre légal, ça marche. Okay. Après, il faut parfois se faire accompagner d'un avocat ou d'un un expert autre, puisque l'administration fiscale, parfois, ne connaît pas très bien tous les cas d'exonération et essaye de démotiver.
Elle est partielle, l'exonération, Manon, dans ce cas-là, si on peut prouver que le logement est vacant.
Oui, c'est partiel ou c'est total ?
Voilà. Total.
Ah, total.
Ah, total.
Ah oui,
d'accord.
C'est ça. Oui. Oui,
et c'est pas neutre. Hein.
C'est pas neutre.
Non, vu le montant de la taxe foncière, maintenant, non. C'est pas neutre.
On a une troisième question.
Oui.
Une troisième question pour la déclaration des revenus 2024. Un lecteur qui loue en LMNP, c'est-à-dire une location meublée non professionnelle, bien sûr, il demande s'il y a des changements par rapport à l'an dernier avec la promulgation de la loi Lemeur, qui est arrivée dernièrement en novembre dernier.
Sur l'immobilier saisonnier qu'on a reçu d'ailleurs, sur le plateau.
La loi dite anti-Airbnb.
La loi anti-Airbnb. Lui, il loue en...
Qui vient supprimer une énième niche fiscale.
Exactement.
Ouais. C'était pas une niche fiscale. C'est quand même,
très intéressant.
Oui, je suis d'accord.
Est-ce qu'il y a eu des changements, du coup, entre les déclarations fiscales 2024-2023 ?
On vous a beaucoup sollicité sur la question.
Oui. Surtout qu'il y a eu ça fait plusieurs temps qu'il y a des réformes qui passent, qui ne passent pas, qui sont modifiées. Là, on a eu la loi Lemeur, effectivement, qui vient définitivement décider que les abattements sont amoindris par rapport à avant. Que les seuils pour profiter du micro BIC sont aussi amoindris. Donc, il y aura plus d'imposition, au final, sur les exploitants Airbnb. La loi Lemeur est un peu plus large que la simple fiscalité, puisque justement, comme vous le disiez, ça vient créer un alignement avec ce qui était fait pour la location classique.
Oui, logique.
Donc, c'est un plan qui est mis en place pour 9 ans. Donc, pour l'instant, on peut encore louer jusqu'au F.
Oui, pour le diagnostic de performance énergétique, effectivement.
C'est ça. Et en 2034, on pourra louer que si on est des lettres A à D.
C'est ça, oui.
Oui, ça rejoint finalement la trajectoire de la loi climat résilience.
Oui, exactement. Mais justement, pour les loueurs en location meublée non professionnelle, là, dans leur déclaration de revenus 2024 qu'ils vont faire en avril-mai 2025, avec ce que ces amoindrissements de seuils et d'abattements fiscaux dont vous parliez, Manon, est-ce que eux, par rapport à la déclaration qu'ils ont faite l'année dernière, est-ce qu'il y a des changements ?
Alors, il y a les premiers changements et il y en a d'autres qui vont intervenir l'année prochaine.
D'accord.
Donc, les premiers changements, c'est ceux qui ont été décidés l'an dernier.
Oui.
Il y a eu une tolérance administrative l'année dernière pour garder les anciens seuils.
D'accord.
Donc là, aujourd'hui, pour les meublés, classiques,
oui.
Là, ça va être 77 700 euros.
D'accord, le plafond, oui.
Voilà.
De revenus locatifs.
Voilà.
OK.
Pour les meublés classés et les chambres d'hôtes, on sera toujours aux alentours de 180 000 euros.
D'accord.
Et l'année prochaine, pour les meublés classiques, ce sera 15 000 euros.
C'est ça.
Et pour les autres, 77 700.
D'accord. Mmh. Donc, pour la déclaration de revenus 2025.
Pour les revenus qui vont être perçus en 2025, okay. Tout à fait.
D'accord, c'est très clair.
Merci beaucoup, Manon Belin.
Avec plaisir.
On vous retrouve avocate, donc fiscaliste dans votre cabinet. C'est neora-avocat.fr.
Neora-avocat.fr. Un problème. Vive Manon Belin. Voilà. Parce qu'il vous faut un avocat. Mais on vous le dit à chaque fois. Il faut annoter un avocat. Je l'ai fait pour moi. Je peux vous dire, j'ai pris un administrateur de biens quand j'ai acheté, quand j'ai fait mes petits investissements. J'ai pris le bon avocat, le bon notaire, etc. Il faut prendre les notaires et les avocats, et surtout ceux qui sont compétents, parce que je peux vous dire qu'en fiscalité, ça a été une galère. Oui, j'ai pris un avocat, je ne vous connaissais pas, sinon je serais allé chez vous. Vous savez, pour l'inscription, pour les impôts, là.
Ouais.
Vous savez, il fallait inscrire son... C'est bien. Mmh. Je ne sais pas si vous y êtes arrivé, vous, à vous inscrire. Moi, je n'y suis pas arrivé. J'ai pris un avocat, il m'a fait ça. Bon. M'a pris un peu d'honoraire, mais je peux vous dire qu'après, c'était tranquille quand même.
C'est compliqué.
Parce que je peux vous dire que c'est complexe. Merci beaucoup, Manon Belin. À suivre, la deuxième partie de notre grand entretien avec Grégory Monod, qui reste avec nous sur le plateau, président de LCA FFB. On le retrouve dans quelques instants. Merci à vous.
La grande interview.
Voilà les amis, vous êtes dans votre 64e édition du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, l'émission que vous attendez tous les mois pour décrypter l'actualité avec notre amie Christine Lejoux. On a notre invité qui est sur le plateau, il est bien là, Grégory Monod, bonjour, merci d'être avec nous, d'être resté avec nous. Je vois, vous êtes le président de la Fédération, alors pas de la Fédération du Pôle Habitat, de la Fédération Française du Bâtiment. On va parler maintenant d'un effet important. Christine, c'est les prix.
C'est les prix, mais juste avant ça, on va revenir sur le statut du bailleur privé, parce que Grégory Monod, vous nous disiez tout à l'heure que s'il y avait bien quelque chose à faire pour relancer le logement neuf, c'était de trouver un statut du bailleur privé, puisque pour la première fois depuis 40 ans, on n'a plus de dispositif fiscal d'incitation à l'investissement locatif avec la disparition du Pinel. Il y a une mission parlementaire pilotée par M. Cosson et Daubresse qui travaille sur le statut du bailleur privé, qui doit remettre ses conclusions à la ministre du Logement au mois de juin. Qu'est-ce que vous en attendez de cette mission ?
Alors, déjà, on a hâte de les rencontrer parce qu'on est très heureux que la ministre...
Vous n'avez pas encore été auditionné.
Non, pas été auditionné. On a déjà...
C'est prévu, là.
Non. C'est prévu dans le mois de mai. Nos permanents ont déjà pu échanger entre eux avec le ministère, mais on a hâte justement de les rencontrer parce qu'on est très heureux que la ministre ait, poussé cette initiative, une de plus. Quand on disait qu'elle est à l'écoute, là... on voit très bien qu'elle a vu que c'était un enjeu important, ce statut du bailleur privé. Et on pense que, là aussi, on espère qu'il va ressortir quelque chose de ces auditions. C'est qu'il faut voir en fait ça comme un investissement, c'est-à-dire l'accompagnement du bailleur privé au travers d'un statut spécifique, c'est un accompagnement sur le long terme. C'est-à-dire que ça va générer aussi des recettes pour l'État. Ces 50 000 logements dont on a parlé, qu'on a perdu tout à l'heure, c'est 50 000 logements à 25 000 euros à peu près de TVA par logement, c'est à peu près ça, le gain pour l'État. Donc c'est énorme pour le budget. Sachant que 2026, on va avoir un budget qui va être ultra contraint. Il va falloir aller chercher des économies. Donc on est conscient de ça. On n'est pas non plus inconscient en disant qu'il faut dépenser à tout crin. On pense que ça peut vraiment rapporter quelque chose à ce budget et avoir des recettes en face qui soient conséquentes et importantes.
C'est plutôt sioux, finalement, de faire ça sous l'angle de la recette sans y affecter la dépense. Parce que en réalité, ça peut refaire partir toute une filière. Une filière, il faut quand même le dire, qui a été mise à genoux par des politiques publiques et également des politiques locales, mais beaucoup plus des politiques publiques. Est-ce que, très, très objectivement, le statut du bailleur privé, ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois? On sait, parce que c'est la première fois depuis 40 ans, première fois depuis 1984, que nous n'avons plus, que vous n'avez plus, d'objets fiscaux, de niches, qu'on appelait ça des niches fiscales ou d'aide à la pierre. Hein, il y avait Pierre-André Périssol, on a eu
Besson,
on a eu De Robien, on a eu Pierre Meignery qui a été l'initiateur. On a aussi, grâce à Jean-Léon Borloo, une grosse offensive sur le développement du bailleur privé. Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, la France des propriétaires, c'était aussi un axe très, très développé. Est-ce que ça va suffire? Clairement, est-ce que ça va suffire pour relancer une industrie qui, aujourd'hui, a fait disparaître, mais les statistiques de l'AFPB, vous les connaissez, hein, pratiquement une centaine de milliers d'emplois détruits, hein, c'est ce qu'Olivier Salleron communique. Les situations sont graves, très graves. Vous avez même reçu le président de la République lors d'un entretien avec Olivier Salleron et en public. Est-ce que ça va suffire? Et selon vous, comment on va pouvoir accompagner le moment avec aussi des phénomènes exogènes que vous ne maîtrisez pas, notamment la situation géopolitique en Europe?
Alors, sur le statut du bailleur, là encore, c'est qu'on va pérenniser quelque chose. On souhaite que les choses soient pérennes. Il ne faut pas qu'à chaque nouveau ministre, on ait un nouveau dispositif.
Statut du bailleur pour reconduire chaque année dans le PLF?
Exactement.
Ou carrément une loi de programmation?
Non, il faudrait qu'il soit dans la loi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une mesure d'exception qui soit reconduite à chaque PLF avec un système d'amortissement
du bien
sur la durée.
Vous voulez sanctuariser le principe
exactement.
De personne et physique et personne morale. Hein.
Personne physique et personne morale. Parce qu'on l'a bien vu, hein, là aussi il y a eu des incantations de l'État à un moment et de certains gouvernements qui pensaient qu'au travers des institutionnels on allait retrouver justement de l'activité, que les institutionnels allaient venir sur le locatif,
mais
on ne les a pas vus. Là aussi c'était une vision, on n'a pas vu les institutionnels revenir, donc on a besoin de ce dispositif pour alimenter les territoires. Vous l'avez dit à juste titre, Olivier Salleron a annoncé des pertes d'emplois. C'est des pertes d'emplois dans les territoires. Et qui sont les premiers touchés, en fait? Ce sont des TPE et
absolument.
Des PME qui ont entre 10, 15, 20, 50, 100 salariés. Donc ça reste des structures, des acteurs ancrés dans leur territoire, qui ont des rayons d'action qui sont somme toute réduits. Et c'est eux qui vont être les premiers touchés, parce que c'est ces entreprises-là qui construisaient le logement collectif.
Alors justement, on va parler des prix, parce que les prix...
Oui, c'est une question très intéressante pour nos auditeurs.
Le sujet, il est quand même important. Enfin, je ne sais pas si on va s'en sortir un jour, mais dès qu'on voit baisser les taux de crédit, on l'a bien vu, dès qu'on voit aujourd'hui une offensive des professionnels pour essayer de promouvoir les biens immobiliers, eh bien on a revu quand même une augmentation. Est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose d'endémique, finalement, sur lequel on pourra pas lutter? Et que
oui.
La spéculation sur les prix, écoutez, il va falloir faire à moins de réglementer.
Oui, parce qu'après des années de hausse continue, on a vu que le prix moyen des maisons individuelles avait baissé l'année dernière de 4,2%, alors qu'on dit que dans le logement neuf, c'est des prix techniques qui, contrairement au logement ancien, ne sont pas simplement régis par la loi de l'offre et de la demande. Les constructeurs de maisons et les promoteurs sont obligés de répercuter le coût des normes environnementales, le coût du foncier... de la fiscalité, etc. Donc, baisse de 4,2% en 2024. Comment les voyez-vous évoluer, ces prix, cette année, Grégory Monod?
Alors, aujourd'hui, au niveau de l'inflation, on peut dire qu'on a une inflation qui est maîtrisée.
Hein. Oui.
Clairement, on pense que là, on est tous d'accord, tous les économistes s'accordent à dire que l'inflation ne va pas augmenter. Notre crainte, c'est plutôt le sujet qu'a abordé Sylvain tout à l'heure, à savoir la situation géopolitique et le sujet des droits de douane. On commence à voir, on commence à voir sur la cote des matériaux, hein, selon les chiffres de la FFB, des prix qui réaugmentent à nouveau. L'acier de la construction, le PVC... tout ce qui est lié justement à cette mondialisation.
Mais ces fameuses hausses qui vous ont été très pénibles dans le calcul de vos prix, hein, ça repart à la hausse.
On a eu la hausse des prix liée à la crise de l'énergie. On a aussi eu une demande qui était très très forte.
Post-Covid.
Donc post-Covid,
oui,
on a quand même
absolument.
Eu, là aussi, hein, quand la demande est forte, les prix n'ont pas tendance à baisser. Pourquoi ils ont baissé aussi l'an dernier? Parce qu'on a eu là aussi une demande qui a tellement chuté, c'est qu'à un moment... Les industriels ont été obligés de
baisser leur prix,
de baisser
en
un
fait.
Petit peu leur tarif pour
d'accord.
que, là aussi,
oui.
s'adapter à cette conjoncture. Mais notre inquiétude porte plus sur les matériaux de construction
d'accord.
qui, apparemment, sont très sensibles à ce contexte géopolitique. Et donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer dans les négociations, dans les prochaines semaines, entre l'Europe et les États-Unis sur ce sujet des droits de douane.
Vous l'avez dit, puisqu'on en a parlé hors antenne, c'est vrai qu'il y a certains maires qui se font un peu tirer l'oreille, qui résistent sur les permis. Mais je vais aller plus loin. Sur le PLU, on voit bien qu'il y a des maires qui, même lorsqu'ils signent, réduisent le cadre de leur propre PLU qu'ils ont mis en place. Parfois. Et on a vu une chose incroyable, et ça vous le savez, certains promoteurs ont attaqué le maire en disant « respectez votre propre PLU ». Et ils ont gagné. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à un point de bascule dans la relation entre ceux qui fabriquent de la ville, les aménageurs privés, aménageurs publics, investisseurs, institutionnels également, mais toute la chaîne de valeur avec les élus locaux, qu'est-ce que vous en pensez? Et à un an des élections, est-ce qu'il n'y a pas là une triple peine qui va vous tomber dessus? Déjà avec la crise politique qui fait augmenter vos matériaux, les problématiques de politique du logement, est-ce que là, on peut se dire que la coupe est un peu pleine?
Alors, déjà 2024, on a vu une baisse de 21% des autorisations, hein, versus la moyenne long terme, si on regarde par rapport à la moyenne long terme, on est 21% en dessous. Donc, il y avait déjà cette petite musique des élections qui était présente en 2024. D'accord. Elle va être encore plus en 2025. Oui. Mais là aussi, je ferai le distinguo entre les maires ruraux, qui eux ont envie d'attirer des jeunes et de la population parce qu'ils ont construit des écoles, ils ont agrandi, ils ont un cadre de vie au travers de la maison individuelle qui a permis. Alors, je parle des maires ruraux et en zone périurbaine. Là, on a vraiment une vraie volonté, on ne sent pas, on les sent beaucoup plus enclins à construire. Le sujet, il est plus sur les agglomérations et les métropoles, où là, on a des élus qui ont plutôt mis le pied sur le frein depuis quelques temps, qui pour moi aussi, et on ne le dit peut-être pas suffisamment, mais sont aussi responsables de la crise dans laquelle on se trouve, de la crise du logement, hein, et d'avoir aussi autant de personnes qui n'ont pas de toit à se mettre sur la tête, qui sont dans la politique toujours du plus, 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 mais on construit moins, moins, moins. Et en fait, quand on regarde bien, il y a un moment, il faut se poser le sujet de notre société. Qu'est-ce qu'on veut pour notre société ? C'est loger des gens dans de bonnes conditions à des prix abordables, ou c'est voir le logement qu'au travers du spectre de l'environnement. Et je pense qu'on l'a beaucoup trop vu à ce niveau-là. On est une réglementation environnementale qui est déjà au plus haut niveau, et on a des élus locaux qui en rajoutent, qui en rajoutent, qui en rajoutent. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, du coup, on a du mal à produire des logements abordables de manière suffisamment massive pour répondre justement au fait à la demande de nos concitoyens d'être bien logés. Parce qu'on a quand même un vrai sujet du mal logement en France. Moi, il y a toujours un sujet qui m'a choqué, c'est qu'on n'objective pas suffisamment les PLH. C'est-à-dire que les élus, au travers de leur PLH...
Plan local de l'habitat.
Plan local de l'habitat, merci Christine. Et au travers de leur plan local d'urbanisme, voire intercommunal et autres, justement, on n'objective pas. Est-ce qu'ils ont rempli les objectifs? Très rarement. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit à juste titre, on nous dit toujours « Non mais attendez, là, vous avez le droit de construire à telle hauteur, on préférerait que ce soit un petit peu moins dense. Ouais. » Ou à l'inverse, on nous dit « Moi, j'ai besoin de 3 places de stationnement en sous-sol, donc du coup, l'opération ne sort pas. » C'est-à-dire qu'au travers d'un règlement des articles assez pervers, eh ben, on baisse la densité, on baisse la construction et on ne produit pas suffisamment de logements par rapport aux besoins. Parce que n'oublions pas également qu'au travers de nos opérations privées, on génère du logement social. Donc on a besoin de ce logement social aujourd'hui.
Ah, mais non seulement on en a besoin, mais vous avez 1000 fois raison. D'ailleurs, les 62% des locataires du parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Donc il y a aussi un rapport subtil. Alors on a encore deux questions, mais on est un peu pris par le temps, mais je pourrais qu'on vous les pose. C'est, Christine, la fameuse loi, la loi Spartacus.
Mais Spartacus, c'est la proposition de loi dite.
Parce que Spartacus était trace d'origine. Voilà, je fais mon cultivé aujourd'hui. La fameuse loi Trace qui risque d'être contrecarrée par les textes de deux députés.
C'est une proposition de loi sénatoriale qui vise à assouplir ce fameux objectif de réduction de l'artificialisation des sols, qui c'est vrai est problématique pour la construction de logements neufs. Alors, ce texte, il a été adopté par le Sénat, mais il doit encore passer par l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée, on a justement deux députés qui sont en train de plancher sur un rapport sur le sujet, mais qui, elles, n'ont pas envie que l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols soit détricoté. Comment voyez-vous de l'avenir cette proposition de loi Trace,
Grégory Monod?
Bah, nous, on est favorable à cette proposition de loi Trace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle remet juste en cause l'objectif intermédiaire qui était fixé à 50% de réduction de l'artificialisation d'ici à 2031, pour le repousser à 2034, oui. Donc on parle de 3 ans. Et surtout, ce qui nous semble très intéressant, c'est le régionaliser. Voilà. C'est-à-dire que les territoires auront la main. Et là encore, hein, l'État tout-puissant avec des incantations descendantes, il y a un moment, il faut laisser la main au territoire. Même si on a aujourd'hui 6 régions qui ont voté leur Stradette, elles pourront conserver leur Stradette comme en l'État. Elles ne seront pas obligées de le modifier. Si elles le
schéma
voudront,
régional
elles
d'aménagement, etc.
Exactement.
C'est pour les auditeurs.
Développement de territoire. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que cette loi, elle va dans mon sens, c'est qu'elle ramène du bon sens. On en revient toujours à la même chose, du pragmatisme de terrain, et on laisse la main aux élus de terrain.
Dernière question qui peut fâcher un peu, enfin, en tout cas qui est dramatique. Le nombre de défaillances de constructeurs de maisons individuelles a bondi de 28% à 1114 entreprises. C'est un drame, parce que derrière tout cela, il y a des entrepreneurs. Moi, je vous le dis parce que on y est extrêmement sensible, des entrepreneurs qui ont perdu leur maison, qui sont caution sur leur crédit, qui se sont endettés. Je parle des patrons, notamment des petits patrons, qui ont tout perdu. Ils ont 50, 55 ans. Certains ne se relèveront pas. Alors, bien évidemment, on ne peut pas ne pas poser cette question. Quelles sont les conséquences, bien sûr, pour les acheteurs immobiliers ? Quel est le sort des chantiers suspendus ? Et enfin, il faut qu'on puisse répondre également à cette question, même si on compatit avec ces entrepreneurs qui ont tout risqué. Quid des recours pour les acquéreurs possibles ?
Alors c'est vrai que l'augmentation est importante, hein, surtout au vu du tissu, comme je disais, des entreprises qui constituent la construction de maisons individuelles en France, à savoir plutôt des petites entreprises
oui, hein,
dans les territoires.
Hein, c'est grave,
2024, hein, ouais. 28% d'augmentation.
On parle de milliers
d'emplois. Ça peut être dramatique également, vous l'avez souligné, pour les acquéreurs, parce qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation assez compliquée.
Chantier à l'arrêt.
Et ça l'est encore plus pour ceux qui n'ont pas fait construire dans le cadre du contrat de construction de maisons individuelles, parce que le vrai sujet, il est là. Aujourd'hui, certes, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais quand vous avez contracté un contrat de construction de maison individuelle, vous avez une garantie de livraison au prix, où vous avez une tierce structure, donc un organisme de garantie, qui vient terminer la maison. Et s'il y a un dépassement de plus de 30 jours du délai de livraison, ça met en route également des pénalités de retard, comme l'aurait eu le constructeur. Donc,
pour
au travers du contrat,
d'accord.
Le consommateur est protégé et est même indemnisé. Alors oui,
d'accord.
Ça va mettre un petit peu plus de temps, mais aujourd'hui, ça s'organise plutôt bien. On a des organismes de caution qui répondent présents et qui sont structurés pour le faire. Et ça marche même plutôt
très bien. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, voilà, vous avez
passer
des moyens
par
de recours.
Contrat.
Voilà.
Aujourd'hui, la loi de 90, elle est là pour vous protéger. Signez un contrat de construction de maison individuelle. Votre prix sera garanti. Vous aurez un délai de livraison. Et en cas de défaillance du constructeur, il y a un garant qui reprend la main et qui va terminer la maison.
Est-ce qu'on peut trouver sur le site du Pôle Habitat FFB des informations sur le sujet ?
Je pense que oui, nous avons des informations à destination du grand public. Mais après, on peut
vous avez aussi les grandes associations de consommateurs qui peuvent vous donner. Voilà, parce qu'on est saisi de ces dossiers. D'ailleurs, on est saisi aussi par des entrepreneurs qui ont tout perdu. Et on compatit également. Ça ne va pas être facile, quand on est président du Pôle Habitat, de voir vos adhérents parfois qui vous appellent désespérés.
Puis quand on entreprend, ce n'est pas pour être défaillant. Quand on entreprend, c'est qu'on a vraiment envie de bien faire. Ouais. Et
il est temps
là, aujourd'hui,
d'ailleurs que la France reconnaisse aussi cette capacité qu'ont les Français, les entrepreneurs, à tout risquer. Parfois, on a l'impression que tout est fait pour les consommateurs, ce qui se comprend, hein, ou par les salariés, mais parfois les entrepreneurs se retrouvent un peu démunis, on peut le dire ça ?
Oui, ils se retrouvent démunis et je peux vous dire qu'ils ont été résilients parce que depuis le temps qu'on leur tape sur la tête.
Merci Grégory Monod. Toujours un plaisir de vous avoir
merci
sur le plateau,
Sylvain,
ne changez rien.
Christine.
Je rappelle que vous êtes le président du Pôle Habitat de la FFB. Il faut venir nous voir plus souvent. On retrouve toutes les informations sur le site du Pôle Habitat de la FFB. Un petit clin d'œil à Christophe Boucaud. Je pensais pouvoir le croiser. En tout cas, merci infiniment de nous avoir donné ces informations. Je pense que Christine, va falloir suivre avec beaucoup de vigilance toutes ces informations dans un monde qui mute de plus en plus, et notamment avec les phénomènes exogènes comme les crises politiques qui animent l'Europe. Voilà, à suivre nos experts pour les parties sur le club des proprios. Vous posez vos questions et nous vous y répondons, c'est dans quelques instants.
Vos questions. nos réponses.
Là, c'est à moi. Merci, Jason. Là, c'est bien. Vous êtes dans le 64e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Après tout, pourquoi pas? Merci d'être avec nous. On répond à vos questions que vous posez tous les mois sur le groupe Facebook des Proprios, géré par notre amie Christine. Et c'est toujours l'ami Vincent qui s'y colle. Nous avons un nouvel expert avec nous. Il est le fondateur, directeur général de Mikasa.
C'est ça.
On dit Mikasa, pas...
On dit Mikasa.
Voilà, Mikasa. Mikasa, c'est chez moi, hein, forcément. Mikasa et Tsukasa. Voilà.
Exactement.
Vous êtes le bienvenu. Vous êtes un chasseur immobilier. On va d'abord vous demander d'ailleurs ce que un petit peu quelques mots sur la marque également. Et on, comme vous êtes parmi nos nouveaux éditorialistes et chroniqueurs, la règle du jeu, c'est de répondre aux questions qui nous sont posées directement, des questions qui sont très, très, très intéressantes. Et on commencera d'ailleurs tout à l'heure par le premier, c'est Jean-Marc qui nous a écrit. Peut-être un mot sur le groupe, Vincent.
Oui, Mikasa, du coup, chasseur immobilier sur toute la France avec un réseau de 80 chasseurs, c'est ça?
Exactement. Aujourd'hui, Mikasa, c'est une marque avec à peu près 80 chasseurs qui sont présents sur tout le territoire. On va accompagner nos clients à la location ou à l'achat pour leur trouver le bien idéal. Donc globalement, si vous avez des soucis techniques, donc logistiques, vous n'êtes pas sur place, ou alors que vous n'avez pas les connaissances, vous allez pouvoir nous le déléguer. Il y a des experts qui vont s'occuper de vous trouver le bien parfait pour vous.
Mmh. C'est cool. À la location aussi, vous faites?
Oui, complètement. Alors, on s'est même construit sur la location. D'accord. On gère aujourd'hui entre 50 et 150 nouvelles missions de location par mois. Et on arrive également sur
l'achat. Sur tout le territoire?
Oui, sur tout le territoire. Alors, d'accord, évidemment, des villes qui fonctionnent mieux.
Et vous arrivez à trouver des biens à la location?
Complètement. On a un taux de réussite qui est environ de 85% sur la location, à savoir qu'on n'a même pas d'exclusivité, donc vous pouvez aussi vous chercher de votre côté, et en moyenne, on va compter...
Combien ça coûte au... Voilà, je cherche un appart dans Paris, pas trop cher, je vous dis, voilà, je trouve pas, parce que y a, pour une offre, il y a 500 demandes, donc on se dit, bon, peut-être que les gens se disent, ah, il y a peut-être un piège ou quoi que ce soit, mais enfin, pourquoi vous y arriveriez plus que ceux qui sont tous les jours abonnés? Et puis surtout, combien ça leur coûte? On peut savoir?
Alors oui, ça peut être vite pénible, hein, concrètement, même à Paris, c'est très compliqué. Aujourd'hui, nous, on va avoir des prestations qui sont forfaitaires, donc finalement, peu importe le prix du bien, donc le prix de votre loyer, ça va être le même prix pour vous. On va avoir des prestations qui débutent à 1 200 € jusqu'à 1 700 €, en fonction de ce que vous allez inclure dedans, si on doit se déplacer en visite.
Mais vous faites quoi pour ce prix-là?
C'est exactement, je l'ai venir. Et nous, pourquoi on y arrive plus que vous potentiellement? Bah, évidemment, c'est notre métier. Donc, c'est des gens qui font une veille quotidienne, voire tous les jours, en permanence.
C'est le réseau, j'imagine, aussi. Bah,
en fait, vous allez avoir d'une part le temps, donc des gens qui sont tout le temps présents et qui veulent trouver votre bien, donc qui sont surmotivés. Ouais. La deuxième chose, c'est que vous avez évidemment le réseau. Quand vous faites ça tous les jours, vous connaissez quasiment tous les gens.
Et vous arrivez à bloquer le bien lorsque vous trouvez le truc qui...
Alors, il faut aussi être réactif de notre côté, du côté de nos clients. Clairement, on avance en équipe, on n'est pas tout seul devant, ça c'est sûr et certain. Mais si le client est motivé, on va avoir aucun problème à trouver le bien assez rapidement.
Est-ce que, c'est une question,
bien sûr,
est-ce que le client, il paye uniquement si vous lui trouvez?
Alors, le client, il va payer des frais de dossier. Mmh. Donc on va prendre 40% de frais de dossier et le reste, ça va être proratisé au nombre de travail qui aura été effectué. Donc concrètement, le nombre de visites, on va venir finalement
s'il
minorer.
Et s'il ne trouve pas, est-ce qu'il paye?
Oui, il paye.
Ah, il paye quand même?
Il paye complètement. On a 40% de frais de dossier chez nous.
Ah oui, et ça marche?
Bien sûr. Bon, bah, en fait, si vous voulez, ça
c'est faire. Tout travail mérite salaire. Alors, il s'est démené, le chasseur. Pour
non, mais
trouver...
je veux dire, un agent immobilier, par exemple, travaille en FISE. Il travaille uniquement sur le résultat.
Ouais.
Les agences de location qui font de la location sont payées uniquement si le bail est signé. Là, par contre, vous prenez même si on n'arrive pas à le...
Complètement, parce qu'en fait, si vous voulez, nous, on va avoir de la prestation de service. Donc, concrètement, en fait, on va accompagner le locataire en visite. On va faire les visites pour lui en lui envoyant un compte-rendu. On va pouvoir également lui donner des conseils. Quand vous arrivez, par exemple, de Marseille à Paris, vous ne savez pas forcément où aller. Mmh. Donc là, nous, on va vraiment venir l'accompagner là-dessus. Et d'accord, évidemment, on va l'aider pour créer son dossier locataire et qu'il soit le plus beau possible.
Donc, sur 1 200 €, pendant l'exemple, vous prenez 400 € tout de suite et le reste, éventuellement, en fonction du résultat.
Exactement.
D'accord. OK, c'est très clair. Première question.
Des questions, ouais, avec Jean-Marc à Creil pour commencer, Arnaud le dit. Quelle est la règle pour un locataire qui part au bout de 28 ans et avait payé une caution de 5 000 francs?
Waouh.
Et oui,
wow,
en 98.
Et oui,
ça arrive.
Est-ce qu'on lui rend ça en francs?
Avant le passage à l'euro. Ce montant, vrai, est-ce qu'il doit être augmenté d'un indice ou est-ce qu'il doit être juste converti en euros? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Bonne déjà, question. J'étais même pas né. Non. C'est une bonne question. Globalement, la loi 89 encadre quand même vachement bien ce genre de cas de figure. Aujourd'hui, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire payer d'intérêt finalement sur la caution.
D'accord.
Il n'y a pas d'intérêt, donc il y a l'inflation par exemple qui pourrait être à la charge du bailleur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez devoir en tant que bailleur restituer dans un délai d'un mois la caution si jamais il n'y a pas eu de dégradation et jusqu'à 2 mois si jamais il y a eu des dégradations. D'accord. Et concernant du coup le montant à reverser finalement à votre locataire, bah, c'est assez simple, hein. On a vu qu'il n'y avait pas d'intérêt, donc vous allez devoir tout simplement faire la conversion. Mmh. On est à peu près à 6,51 francs pour 1 euro.
Ça, ça fait 800 euros.
Ça fait à peu près 760 euros exactement.
Mmh. Ah ouais, ok.
Mais aussi ce que vous devez savoir, c'est que lors de l'état des lieux, en fait, vous allez avoir bah, forcément une usure du bien qui va être faite, au bout de 28 ans, c'est complètement normal. Et en l'occurrence, vous n'allez pas pouvoir normalement l'imputer au propriétaire, enfin au locataire, pardon, mm-hmm. parce que tout simplement, bah, le bien s'est usé avec le temps. Et ouais. ça, c'est à votre charge en tant que bailleur. Donc, vous devez regarder la grille de vétusté qui est présente en annexe du bail.
D'accord.
Très bien. Une autre question maintenant avec Odette à Villeurbanne. Mon locataire a subi un dégât des eaux du voisin du dessus. Il doit quitter le logement le temps des travaux. L'assurance du locataire d'Odette ne prend pas en charge son relogement. Elle lui demande de se retourner contre son bailleur, l'assurance. Est-ce qu'elle va devoir payer le relogement, Odette, qui elle est la propriétaire du logement ?
Alors c'est toujours compliqué qui va devoir payer
oui.
concrètement, surtout dans une copropriété, ça peut être vite pénible. Alors en l'occurrence, vous en tant que bailleur, vous n'avez pas d'obligation de reloger votre locataire. Donc en aucun cas, vous ne payerez ça. Mm-hmm. Cependant, vous devez fournir à votre locataire un logement qui est décent, viable. Et en l'occurrence, mm-hmm. si le dégât des eaux est trop important, bah, ce n'est plus le cas. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous allez devoir voir avec votre locataire pour soit lui faire une franchise de loyer, ne pas lui faire payer le loyer pendant toute la durée des travaux ou que votre logement est indécent, et ou... voir directement avec votre assurance propriétaire non occupant qui va pouvoir prendre en charge finalement la perte de gain que vous allez avoir en tant que bailleur parce que vous ne pouvez plus exploiter votre bien. La deuxième chose que je vous préconise, c'est évidemment d'aller voir directement votre voisin ou l'assurance de la copropriété pour tout simplement voir avec eux s'ils peuvent prendre la charge le relogement de votre locataire. Comme ça, vous êtes sûr que votre locataire sera super heureux.
C'est, franchement, c'est du grand n'importe quoi parce que les gens, ils se posent vraiment des questions. Vous avez le propriétaire qui ne touche plus son loyer. Il n'est pas responsable du dégât des eaux. Et on lui demanderait en plus de reloger
la personne.
Il touche pas son.
Alors,
il touche, non, mais attends, il touche pas le loyer. Il y a un dégât des eaux, c'est pas lui qui a été explosé les canalisations. Et en plus, il devrait repayer. Non, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, là, deux secondes, hein, quand même. Hein.
Et c'est marrant d'ailleurs que l'assurance du locataire, parce que forcément, il a une assurance habitation pour son logement. Et c'est pas prévu de payer le relogement.
Alors non, normalement, la loi 89, normalement, n'oblige pas.
Hein, non, bailleur. Non, je parle de l'assurance du locataire.
Et ben, parce que c'est pas la faute du locataire. Si vous voulez.
Ah, bah oui, bien sûr.
L'assurance du locataire lui a donné un conseil qui, à mon avis, est un conseil pourri. Donc, on va
se retourner contre le bailleur, c'est ça.
Comment il s'appelle, comment il s'appelle
La propriétaire s'appelle Odette.
Bon. Oui, c'est Odette.
Bon, Odette, votre assureur, il vous a demandé un truc pourri. Voilà. Voilà. Et puis, c'est là que, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure avec nos experts, c'est qu'il faut vraiment ceinture et bretelles, prendre des assurances propriétaires non occupants, c'est hyper important.
C'est exactement.
C'est-à-dire que je suis propriétaire bailleur, je prends une assurance. Puis, si possible, je recommande à l'administrateur de biens, avec garantie de loyer impayé, garantie contre le vandalisme, etc. Je peux vous dire que c'est... Voilà, même si ça coûte 5-6% par an sur le loyer... Franchement, quand on voit les
points,
on est d'accord. Hein. Ouais. Faut dire, voilà. Et puis vous, de votre côté, Odette, hein, choisissez un bon assureur qui vous donne des bons conseils.
Une dernière question avec Christophe à Paris. En zone tendue, c'est le cas à Paris, lorsque le propriétaire donne congé au locataire pour la date anniversaire du bail, le locataire peut-il partir sans préavis à partir du moment où il a reçu le congé, ou est-ce qu'il doit respecter un préavis de 3 mois?
Trois mois, c'est sûr que non.
Alors exactement, normalement, c'est dans tous les cas un préavis de 1 mois. Vous êtes en zone tendue, donc il n'y a pas de question.
Zone tendue, on le redit, c'est là où il y a plus de, demandes de logement que d'offres.
Enfin. Avant, c'était combien? C'était 3 mois, il me semble.
Oui, mais ça a changé sous Sarkozy. Oui, vous n'étiez pas né. Voilà, c'est ça.
Une trop jeune expérience pour ça.
Il y a une dizaine d'années quand même.
Vous n'étiez pas né.
Mais effectivement, c'est sous le précédent septennat.
La question, elle est simple. C'est-à-dire, je suis propriétaire, je donne congé à mon locataire dans 6 mois. S'il décide de partir dans 1 mois, dans 2 mois, est-ce qu'il doit donner un préavis ou pas?
Non.
Alors exactement, vous avez bien répondu. Donc finalement, non, il n'y a aucun préavis à donner. donner quand vous êtes locataire. Okay. Votre propriétaire vous donne congé.
D'accord.
Vous pouvez partir finalement à tout moment. Alors, okay. Évidemment, le mieux, c'est de le prévenir, d'être sympa avec lui, de le prévenir. Oui. Vous allez devoir payer votre loyer jusqu'à la date d'effet finalement de votre sortie.
D'accord.
Mais vous pouvez partir à n'importe quel moment sans respecter de préavis.
Par contre, si vous êtes le propriétaire, c'est autre chose. Hein.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Vous devez quand même faire attention. On n'a pas parlé, on ne sait pas aujourd'hui si c'est un logement qui est loué meublé ou vide.
Mmh. Oui.
Mais s'il est loué vide, par exemple, vous allez devoir respecter des droits de préemption, un droit de préférence sur la vente de votre bien.
D'accord.
Et donc, si jamais vous ne le vendez pas directement à un membre de votre famille, et bien potentiellement, vous devez demander à votre locataire s'il souhaite
l'acheter. Oui, s'il est intéressé. Oui, d'accord.
Exactement.
Ouais, oui.
C'est dingue.
Absolument.
Le propriétaire doit impérativement tenir le délai des 6 mois. Donc, ouais. Le locataire, pas de problème, il s'en va quand il veut. Mm-hmm. Mais 6 mois minimum. Et en plus, si jamais il veut, alors, imaginons que ce soit un congé pour vente. Attends. Il doit d'abord le proposer au locataire, enfin au prix qu'il veut, hein, attention. Parce que, voilà. Mais peut-être qu'un jour ça va nous tomber dessus.
Parce que s'il y a une autre offre qui tombe, vous devez redemander à votre locataire.
Voilà.
Ah oui.
Donc finalement, un peu le serpent qui peut se mordre la queue.
Oui, d'accord, ok. Oui, bah, si le locataire est vraiment.
Décidément, on a vraiment décidé de s'en prendre au proprio. Quoi. Mmh. C'est un truc de fou.
Merci beaucoup, Arnaud Ledy.
Bah, je vous en prie.
Fondateur de Mikasa, réseau de chasseurs immobiliers en France, qu'on retrouve sur mikasa.fr. Mikasa.fr.
Avec un Z à Casa.
Oui, Casa.
Voilà. Exactement.
Voilà. Mikasa et Sukasa. Voilà.
Mikasa et Sukasa.
Sylvain est polyglotte. Hein.
Toutes les langues.
Voilà, merci beaucoup, l'ami Vincent, et merci à vous, Arnaud. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à poser vos questions sur le club Les Proprios sur Facebook et animé par nos amis de Capital. Également sur l'application de Radio Immo, n'hésitez pas. Vous contactez l'ami Vincent et on vous y répondra. On enchaîne avec la suite de notre programme.
Le grand rendez-vous de l'immobilier.
Eh bien voilà les amis, c'est terminé pour notre numéro d'avril 2025, 64e édition, toujours fidèle au poste, heureusement d'ailleurs que vous nous regardez, puisque nous ne serions tout simplement plus là depuis les 5 dernières années. Merci d'avoir suivi cette émission, elle est disponible bien sûr en replay sur l'application de Radio Immo comme d'habitude et sur le site de capital.fr. Merci à tous nos invités, Grégory Monod, président du Pôle Habitat de la FEB, et de tous nos experts. Merci à vous Christine et on va se retrouver le mois prochain.
Avec plaisir Sylvain, merci à vous, merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à poser vos questions pour le prochain numéro à nos experts sur le groupe Facebook, le Club des Proprios.
Voilà, c'est très important puisque ces questions, c'est vous qui les posez tous les mois. On fait venir nos experts et on essaye de décrypter l'actualité pour vous. Et croyez-moi, il y a beaucoup à faire. Voilà, rendez-vous le mois prochain pour le 65e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. D'ici là, prenez soin de vous, prenez le soleil, tout va bien, l'été arrive.
C'était le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, une émission présentée par Radio Immo et Capital, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming.